car les états de privation de la vie m'ont toujours renseigné beaucoup mieux sur la pléthore de ma puissance que les crédons petits bourgeois de la bonne santé.
Tu cherches un
Un emploi de chanteur d'opéra.
Chanteur d'opéra, c'est une belle profession et tu es intéressé par l'opéra?
Non, pas vraiment, non.
Non, par le chant, tu sais chanter?
Non plus, non.
Non, tu connais les autres tu... Non,
non, non, non, non, non.
Mais que diable est-il faire dans cette galère?
Ça fait raison, mais hâtez-vous!
Y avait-il quoi d'autre en promenade?
Cela est vrai, mais faites promptement, maudite galère!
Alors, cette galère me tient au cœur.
Une histoire pas comme les autres. Une histoire qui vous sera racontée en musique et par les instruments de l'orchestre.
Bonjour et bienvenue dans votre numéro du mois de septembre 2019 de Scène de vie, vite scène, l'émission qui prendra à nouveau pour cette nouvelle saison de prendre son temps pour vous parler du spectacle vivant. Cette émission est une coproduction du Tangramme et de Principe Actif. Et c'est pour le plus grand bonheur que je retrouve Cécile et Nathalie pour cette nouvelle saison. Bonjour.
Bonjour JC.
Bonjour JC.
Alors, au programme de ce numéro de septembre, nous parlerons du Tangramme et plus précisément de la nouvelle direction du Tangramme.
Et oui, nous accueillons avec nous Valérie Baran. Valérie Baran, bonjour et bienvenue sur les ondes de Principe Actif.
Bonjour, moi je suis ravie d'être là. Merci de votre invitation.
Nous parlerons également d'une création avec la particularité du langage des signes.
Oui, nous aurons au téléphone Isabelle Florido, qui est la créatrice de la compagnie Les Compagnons de Pierre Ménard, et qui nous parlera du travail assez riche de cette compagnie, qui est une compagnie de théâtre, mais qui intègre la musique et surtout la langue des signes, et qui sera présente dans les escapades du mois de septembre.
Nous ferons également un petit tour de ce qui se passe sur ce mois de septembre en spectacle vivant, une liste non exhaustive et complètement subjective qui est passée par la moulinette de l'équipe.
Oui, on garde la ligne éditoriale qui nous est bien identique et identifiée. C'est notre choix parmi les nombreuses sorties ou événements ou curiosités. Et voilà, on va aller voir un petit peu sur l'ensemble du territoire ce que vous pouvez faire sur le mois de septembre.
Une autre de nos traditions, nous retrouverons un extrait de film en fin de cette émission.
Voilà, on s'est dit que la formule marchait assez bien et puis ça fait partie aussi des genres artistiques qu'on souhaite faire découvrir à nos auditeurs. C'est aussi du cinéma et là, un petit clin d'œil à un grand réalisateur américain. J'en dis pas plus.
Ben non, on n'en dit pas plus. Il faut qu'on garde un petit peu de suspense jusqu'à la fin de cette émission.
Gardez l'émission jusqu'à la fin.
Mais tout de suite, sans plus attendre, nous avons une autre de nos traditions qui nous colle à l'émission, à savoir l'extrait sonore, le moment de vie, un son à découvrir.
Il y a 20 ans de ça, voire même un peu plus, 25 ans, plus on allait voir les concerts dans les préfabriqués de la MJC, il n'y avait pas encore le silo, il y a eu le Froggle Rock qui se faisait au stade de rugby au début, puis après à la salle des fêtes. Et du coup, tu sais, on est dans le sud de l'Eure, s'il se passe rien à Verneuil, quand t'es jeune ici, tu prends ton vélo, tu vas à Évreux. Non.
C'est plus compliqué.
Du coup, il faut qu'il se passe des trucs ici, quoi. C'est obligé. Sinon, c'est mort, quoi. C'est le sud de l'Eure, quoi. Faut pas oublier.
Et puis, il y a quand même des jeunes ici, quand même. Il faut le savoir. Donc, voilà.
Et des anciens jeunes.
Oui,
et qui viennent venir ici pour voir tout le monde, quoi.
Bah, c'est aussi ça, hein. Les mauvaises graines, c'était un peu comme le Froggle. Ça permettait aussi, une fois par an, à tout le monde de se revoir, de savoir comment ça va, un peu de voir les têtes que t'as pas vu depuis un an, au même endroit. C'est le moment, quoi.
C'est la culture.
C'est un lien social. Aussi, faut pas l'oublier.
Alors JC, où as-tu laissé traîner les micros de la radio?
Alors là, les micros, pour une fois, ne traînaient pas. On les avait bien rangés. C'était lors des concerts de soutien aux mauvaises graines, événement qui s'est déroulé le 31 du mois d'août.
C'est ça, le week-end dernier.
C'est ça, le week-end dernier. Alors, ça faisait 10 ans que se déroulait sur ce premier week-end de septembre ou le dernier d'août, ça dépendait des années, le festival Les Mauvaises Graines. Ce festival était proposé par la MJC Le Silo de Verneuil-sur-Avre, proposait une programmation sur 2 jours, programmation de musique actuelle, type nationale, internationale. Ça animait le territoire du sud du département, plutôt bien d'ailleurs. Hein.
C'était un rendez-vous annuel pris par tous les habitants. Mais là, voilà. Cette année, contexte un peu particulier.
Contexte particulier suite à des difficultés financières, hein, pour être tout à fait clair. La MJC n'a pas pu reproposer cette année un festival sur 2 jours du type des mauvaises graines. Et donc, il y a eu annulation de l'événement. Suite à ça, l'association Les Moyens du Bord, qui travaille avec la MJC, le silo, depuis des années, a dit non, nous, on ne laissera pas passer une année vide, parce que c'est toujours compliqué quand on a une année vide de repartir sur la programmation ordinaire. Ils se sont dit, nous n'acceptons pas l'année vide, nous ne pouvons pas laisser passer ce rendez-vous. Et on l'entendait là dans l'extrait d'interview des Moyens du Bord. Il le disait, c'est un moment où tout le monde va se croiser, c'est le moment à l'année où on va retrouver les mêmes têtes au même endroit. C'était comme ça que c'était dit dans l'interview. Cette notion aussi de social dans la programmation d'un festival, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est un événement culturel, mais aussi un événement social où les gens vont se croiser, discuter, échanger. Et donc l'association Les Moyens du Bord a dit non, nous on laisse pas passer une année à vide. Ils ont donc organisé un concert de soutien sur une seule soirée, donc le 31 août, pour soutenir ce festival. Alors sans moyens, l'association s'appelle Les Moyens du Bord, hein, ça ne s'invente pas. Mais une fois de plus, ce lien social existe parce qu'ils ont fait une programmation de 6 groupes issus de la région qui sont venus bénévolement. Et ça, je tiens à le souligner, c'est particulier qu'au bout d'un moment, des groupes puissent venir bénévolement pour soutenir une action, le festival, Les Mauvaises Graines en l'occurrence.
6 groupes et puis aussi les associations présentes, comme d'habitude, qui étaient habituellement au rendez-vous, ont dit, mais nous, ça ne change rien. On sera là et on soutient bien évidemment le festival des mauvaises graines.
Voilà, exactement. Donc voilà, c'était ce petit zoom qu'on souhaitait faire. Nous avons participé à cette très belle soirée. Il y avait cette ambiance qu'on connaît des mauvaises graines. Il n'y avait pas le même développement de moyens forcément, mais c'était quand même l'occasion de revoir, comme on le disait dans l'interview, toutes ces têtes qu'on voit une fois par an.
C'était les moyens du bord. Voilà, les moyens faits avec les moyens du bord, mais toujours avec la même chaleur et le même accueil.
Du coup, nous comptons bien l'année prochaine pour Les Mauvaises Graines en version complète, bien entendu, et nous y serons également. Voilà pour cette petite pastille que nous souhaitions vous glisser dans l'oreille en cette rentrée.
Eh bien, merci JC. Et nous allons enchaîner sur notre première pause musicale avec un choix féminin de Anne Passeo. Anne Passeo, une batteuse française qui joue national et à l'international, mais qui a également son propre groupe.
Et qu'on peut voir régulièrement sur Louviers à l'occasion du festival de jazz à Louviers. Moi, je l'ai vu déjà 3 fois au moins sur Louviers parce qu'elle est assez liée à cette organisation. Et effectivement, l'avoir jouée, c'est quelque chose.
Et nous l'accueillerons au Tangramme.
Ah,
voilà,
ça, c'est une bonne
juste
nouvelle.
Le temps mois de
octobre
18 17, octobre
17,
17, 17 octobre. Ah, pour moi c'était le 18, voilà.
Bah, venez les deux jours.
Voilà. Venez les deux jours. Venez à la générale.
Tomorrow.
Anne Passeo, c'était notre tout premier extrait musical. Nous accueillons maintenant, enfin nous l'avons accueilli en début d'émission bien entendu, Valérie Baran.
Oui, bonjour Valérie Baran et merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Puisque vous êtes la nouvelle directrice du Tangram, vous venez vraiment d'arriver, puisque je crois que votre arrivée date de cette semaine sur Évreux.
Absolument, lundi dernier.
Lundi dernier.
Enfin, c'est-à-dire il y a 4 jours. Hein.
Voilà. Donc vous avez fait votre rentrée, on peut dire.
J'ai fait la rentrée scolaire comme les petits enfants.
Votre rentrée lundi 2 au Tangram. Et bah, on voulait vraiment vous avoir en invité dans notre première émission pour bien se présenter et aller un peu à votre rencontre. Donc Valérie Baran, qui êtes-vous? D'où venez-vous avant Évreux? Vous faisiez quoi? Et surtout, quel est un peu votre parcours dans votre vie, puis dans qu'est-ce qui vous amène à Évreux, au Tangram aujourd'hui?
Alors, ce qui m'amène à Évreux, c'est un choix absolu. Hein. Donc, moi, je suis déjà, je réitère mes remerciements pour cette invitation. Je suis ravie, je viens effectivement d'arriver. Je viens aussi de m'installer dans cette belle ville d'Évreux il y a quelques jours également, très peu de temps avant de prendre mes fonctions lundi. Donc, c'est un choix absolu, c'est-à-dire qu'il me semblait, alors d'où je viens, si vous voulez, moi je dirigeais un théâtre qui s'appelait, oui, je suis obligée de parler au passé, qui s'appelait le Tarmac, la scène internationale francophone, et qui était située à Paris, dans le 20e arrondissement, dans un théâtre qui historiquement était très important, qui s'appelait le Théâtre de l'Est parisien. Je vais peut-être poursuivre sur l'idée de ce choix de venir en province et de venir à Évreux précisément. J'ai dirigé cette maison pendant de nombreuses années, pratiquement. Je la dirigeais depuis 2005, vous voyez, ça fait quelques années. Il me semblait que j'avais à la fois développé le projet artistique, donc très singulier, qui était celui du Tarmac, c'est-à-dire de travailler sur la création contemporaine du monde francophone, c'est-à-dire un projet très ouvert à l'international. Donc j'avais vraiment développé ce projet autant que faire se peut, qu'on avait fait un énorme travail sur l'ancrage territorial, mais j'avais envie de retrouver, d'abord de travailler sur un nouveau territoire, de m'investir sur un nouveau projet, et je considère que les métiers qui sont les nôtres de diriger des lieux de spectacles vivants, des lieux culturels, sont intimement liés à l'humain, à l'homme, à l'humain, et je ne trouvais plus mon compte de ce rapport humain à Paris, pour être tout à fait honnête, même si dans le 20e arrondissement, il y avait quelque chose de très particulier. C'est un arrondissement très, très populaire, très brassé, et on avait des moments très très forts de rencontres avec les populations, avec les publics, avec nos nombreux partenaires associatifs ou politiques, mais la vie parisienne, honnêtement, me convenait plus beaucoup. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, je vous livre mon sentiment. C'est très intime ce que je vais vous dire, mais que cette surdensité de population amène à un certain nombre de comportements qui sont, je trouve, assez violents. Moi, j'avais envie de retrouver une ville à dimension humaine, et je pense qu'Évreux est vraiment cette ville-là, c'est-à-dire une ville importante, mais où l'humain a encore toute sa place, qui parfois, je trouve, n'est plus le cas à Paris. Voilà, je ne sais pas si c'est pour vous dire quel est le choix qui est le mien de venir dans cette ville-là, Normandie, évidemment, est un territoire qui on ne peut plus attractif, et pour quelqu'un qui est d'origine bretonne.
Donc voilà, pas si loin de la Normandie.
Donc une cousine ou une voisine, si vous voulez.
Cousine, oui, voilà. En général, c'est ça.
Et après, si vous voulez que je vous raconte mon parcours, je vais essayer d'être brève, parce que le parcours est déjà un petit peu dense. Moi, je ne suis pas tombée dans la marmite de potions magiques comme Obélix quand il était petit, c'est-à-dire que je n'ai pas démarré ma carrière dans le spectacle vivant. J'ai fait une école de commerce international, et mon premier job, mon premier poste, c'était à l'ambassade de France à Moscou, au sein du poste expansion économique, donc en pleine perestroïka, dans les années où vraiment on était sur la fin de l'Union soviétique, l'implosion de l'Empire soviétique, la mise en place de la Commission des États indépendants, donc Gorbatchev était au gouvernement, Yeltsin était maire de Moscou et était en train de prendre une place absolument dingue et d'occuper une position politique qui était extrêmement nouvelle. Et donc j'ai vécu toute cette période de transition qui a été humainement, politiquement, culturellement, artistiquement aussi très très riche, parce qu'il y avait un foisonnement d'artistes qui traitaient de cela, alors à travers des voix qui étaient souvent détournées parce que la parole n'était pas totalement libérée. Je ne suis pas sûre qu'elle le soit encore aujourd'hui d'ailleurs, pour être tout à fait honnête, mais c'était extrêmement intéressant. Mais j'étais attachée aux questions économiques et sociales, donc moi je travaillais surtout à favoriser la relation entre les entrepreneurs français et les entrepreneurs encore soviétiques. Et puis ensuite, je suis rentrée en France et j'ai travaillé pour un gros groupe américain où j'étais travaillée dans la finance, qui s'appelle American Home Product Corporation, qui est, et je travaillais dans le contrôle de gestion. Et puis, le hasard étant quand même souvent très... Je trouve c'est assez merveilleux. C'est au gré d'une rencontre, j'ai pu rencontrer la direction du Théâtre National de Bretagne à Rennes. Et donc, j'ai quitté la finance et cette grosse boîte américaine pour venir travailler au Théâtre National de Bretagne à Rennes, où j'ai finalement découvert les métiers liés au spectacle vivant, à l'art et à la culture. Voilà, où j'ai travaillé quelques années. Et puis, j'ai eu un petit moment où j'ai eu besoin de me replonger dans un contexte très international. Donc, je suis partie vivre un an en Chine, où j'ai travaillé un petit peu. Enfin, j'ai travaillé surtout à Hong Kong pendant pratiquement un an. Et avant, j'ai un peu circulé dans l'ensemble de la Chine populaire. Voilà. Et au retour de la Chine, et là, je vais arrêter parce que je pense que je vais vraiment vous fatiguer. Donc, on est dans les années 2001. Je cherchais un théâtre qui ait une vocation très internationale, une ouverture sur le monde importante, et je suis venue travailler aux côtés d'un grand monsieur de la décentralisation théâtrale qui s'appelle Gabriel Garand, qui avait été le fondateur du Théâtre de la Commune à Aubervilliers, qui avait été travaillé à la préfiguration d'une grosse maison qui est la MC93 à Bobigny, et qui avait fondé un théâtre qui était peut-être plus confidentiel mais tout à fait singulier, qui s'appelait le Théâtre International de langue française, où je l'ai rejoint en qualité d'administratrice et de secrétaire générale. Et puis voilà, après Gabriel est parti à la retraite, j'ai postulé et la marche. Et donc j'ai pris la direction de ce théâtre en 2005 jusqu'à juin, voilà, que j'ai quitté pour arriver à Évreux.
Oui, c'est un parcours riche, extrêmement diversifié, très... Mais quel pas aussi de passer de la finance à la culture, enfin, c'est...
Justement, moi je... Ouais, je... Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Du coup, c'est vrai que... comment ça se passe? Parce que traditionnellement, dans le monde de la culture, on regarde toujours un peu le monde économique et le monde de la finance comme étant un peu, pas les méchants, mais en tout cas c'est un peu un gros mot, c'est quelque chose avec lequel on n'est pas forcément à l'aise, en tout cas je trouve historiquement. Et du coup, quand on a un parcours comme le vôtre, comment on est accueilli, comment ça se passe, et comment on fait les liens, parce que finalement ces liens ils sont évidents, et puis aujourd'hui le monde culturel évolue, le monde en général évolue. Comment on se positionne, quel regard vous portez, et puis comment dans la sphère artistique et culturelle ça travaille, justement comment ça échange?
Alors effectivement, j'entends ce que vous dites. Je sais qu'il y a beaucoup d'appréhension, de réticence. Je pense à tort. D'abord, il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui sont dans le milieu privé, qui sont des gens qui sont extrêmement cultivés, extrêmement ouverts, curieux d'art et de culture. Simplement, moi, comme beaucoup de gens, j'imaginais que les métiers artistiques étaient des métiers de plateau, si vous voulez, ou des métiers techniques. Donc, j'étais abonnée dans 6 théâtres parisiens. Lorsque j'étais à Moscou, j'étais tous les soirs au théâtre. Donc j'étais grande consommatrice de spectacles, mais je ne pouvais pas imaginer, parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas, si vous voulez, la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire tous les métiers qui existent autour du spectacle. Et je vous dis, c'est vraiment la chance d'une rencontre un soir où, donc moi j'allais beaucoup je fréquentais beaucoup de théâtre, et très 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 régulièrement, je sortais pratiquement tous les soirs en discutant avec un administrateur, l'administrateur du TNB pour pas le nommer. Il me dit, mais écoute, il y a quand même des métiers, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Et effectivement, ils m'ont appelé peu de temps après pour me proposer de venir travailler à la préfiguration d'un festival qui s'appelait le Festival Mettre en Scène, qui était ensuite un grand festival international. national français, où je suis venue poser un regard un peu extérieur, justement, peut-être un peu en distance, puisque je pense que c'est ce qui pouvait les intéresser. Après, comment les deux milieux existent ou coexistent, moi je crois que le monde de l'art et de la culture ne peut pas être hors tout. C'est-à-dire que c'est un... D'abord, il faut travailler sur l'inscription sur le territoire, qui me semble absolument essentiel. Et le territoire, ce sont évidemment des populations, des entreprises. Et que je pense que gérer un théâtre, c'est aussi gérer une entreprise. Hein. C'est-à-dire qu'on fait des ressources humaines, on gère des aspects économiques importants. Et que pour ça, il me semble qu'il faut avoir des compétences aussi en matière de management, de gestion d'entreprise. Donc pour ça, ça m'a été très, très utile. Et pour moi, il n'y a pas du tout de hiatus entre ces deux mondes, au contraire, et c'est quelque chose que je souhaite vraiment développer. J'en profite, puisque j'ai l'antenne, pour dire que je suis évidemment très ouverte à me rapprocher d'un certain nombre d'entreprises qui sont installées sur le territoire hébroïcien. Je trouverais évidemment extrêmement intéressant de pouvoir développer des liens avec ces entreprises. Hein. Cet outil incroyable, cet établissement merveilleux qu'est le Tangram, peut être aussi un partenaire de premier rang pour une entreprise.
Et puis le théâtre et la scène, et je pense aussi comme dans les entreprises, c'est aussi du projet, et du projet en relation avec de l'humain. Et peut-être que sur voilà, ces méthodes et ces relations, eh bien, il y a des choses communes qui peuvent aussi s'enrichir l'une et l'autre, en fait. L'une et l'autre, dans sa relation à l'humain, peuvent être complémentaires et même apporter des nouvelles idées.
Tout à fait.
En tout cas, il y a quelque chose qu'on perçoit très clairement, c'est quand même la notion d'engagement par rapport au parcours que vous avez eu. On sent un engagement total dans chaque projet, effectivement, dans chaque rencontre qui se sont proposées, enfin qui sur lesquelles vous, chaque personne sur lesquelles vous êtes tombé, il y a, je trouve, cette notion d'engagement. C'est essentiel, c'est important.
Ah, c'est constitutif de ma personne, si vous voulez. Et puis alors, lorsqu'on fait des... Alors d'abord, par nature, je suis extrêmement curieuse. A priori, tout m'intéresse. C'est-à-dire que jusqu'à ce que j'explore à fond, je trouve que tout est intéressant. Je n'ai pas de préjugés ou de rejets immédiat d'un milieu ou d'un autre. Le choix de l'engagement, il a été total. C'est constitutif de ma personne. Ce choix de travailler dans le spectacle vivant, dans l'art et la culture, en revanche, je l'ai fait et pour des raisons qui sont évidentes, c'est-à-dire d'engagement social, sociétal. Je pense qu'il est absolument essentiel. Alors, je suis évidemment absolument convaincue du rôle majeur de l'art et de la culture dans la société, dans toutes les sociétés d'ailleurs, pas seulement la société française ou européenne. Je pense que ce sont les artistes et les gens, enfin l'ensemble des acteurs de cet art et de ces domaines participent à faire évoluer les mentalités, participent à faire évoluer nos sociétés. Donc ça doit être un engagement tous les instants.
On va continuer sur la notion d'engagement, mais je vous propose, on se fait une petite pause. Alors cette première pause musicale, c'est vous qui nous l'avez confiée, Valérie. Je vous laisse la présenter. Donc on a c'est Le Vol du Bourdon, donc par Rimsky-Korsakov. Alors vous m'excuserez pour la prononciation, mais interprété par Bobby McFerrin et Yo-Yo Ma. Vous pouvez nous en dire quelques mots avant qu'on lance le morceau ?
Oui, alors, ce compositeur russe, Rimsky-Korsakov, est un... Alors moi, je suis très sensible au compositeur russe. Alors, vous imaginez, je vous dis, j'ai vécu un moment en Russie, donc je suis très sensible à la littérature russe, à la musique classique russe. Je trouve que ce morceau est un morceau absolument virtuose. Et là, dans l'interprétation tout à fait particulière de Bobby McFerrin, qui est un interprète virtuose, absolument incroyable, donc vocaliste, hein, il faut savoir qu'il a une... Je pense que c'est quelqu'un qui a un spectre vocal probablement les plus larges. Si vous ne connaissez pas Bobby McFerrin, prenez le temps d'écouter, c'est quelqu'un d'éblouissant. J'adore la singularité de sa voix, j'adore la singularité du travail qu'il fait, là avec Yo-Yo Ma, qui l'accompagne merveilleusement. Je trouve qu'on est dans ce dans la quintessence de l'art, c'est-à-dire comment on retraverse là un grand classique dans quelque chose de très particulier, très singulier, la singularité de Bobby McFerrin. Je vous propose de l'écouter.
Les conseils de Valérie Baran, vous effectivement allez découvrir si vous ne connaissez pas Bobby McFerrin, pardon, qui sera au Havre, au Volcan, le 16 novembre.
Voilà, alors vous avez vu quand même le travail vocal de Bobby McFerrin, on ne distingue plus la voix de l'instrument, et ça c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà.
Eh bien, merci pour ce beau moment virtuose de musique et de voix. Alors, voilà, on entame la deuxième partie d'émission avec Valérie Baran. Vous êtes toujours sur nos ondes Scène de Vie, Vie de Scène, sur Principe Actif. Et bien voilà, après nous avoir présenté votre parcours, c'est Évreux et le projet Tangram. Là, une nouvelle aventure pour vous, nouveau territoire. Tangram avec déjà une existence de 3 ans. Eh bien voilà, est-ce qu'on peut dévoiler d'ores et déjà au micro et à nos auditeurs un peu ce que vous avez en tête, ou quelle a été aussi la fiche de route donnée par notre conseil, par le conseil d'administration? Voilà, est-ce que vous pouvez dévoiler d'ores et déjà quelques pistes de ce que vous avez envie de faire découvrir, partager aux habitants du territoire?
Si je vous réponds non, vous êtes dans la misère, là.
Eh ouais. Et là,
nous spéculerons.
On vous lancera plein de questions et vous direz oui ou non.
Ouh. Écoutez, je ne vais pas rentrer dans le détail d'un projet qui, évidemment, est assez conséquent, parce que cet établissement du Tangram est quand même un établissement singulier, une fois encore. Alors moi, je vous disais, j'adore la singularité, je pense que c'est ce qu'on recherche dans le spectacle et dans l'art. Ce projet est singulier. Vous avez donc à la fois une scène de musique actuelle, prochainement labellisée, j'espère, on va y travailler. Vous avez une scène nationale, et puis vous avez aussi un établissement qui est...
Juste un petit problème de technique de casque, et on continue.
Je continue ?
Oui.
D'accord. Et vous avez également donc le cadran, qui est un palais des congrès, qui permet à la fois d'accueillir les grandes formes scéniques, mais qui est aussi un lieu donc de privatisation, un lieu qui a une vocation plus économique. Alors, je vous disais, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais ce qu'il faut dire d'abord, et ce qui est absolument notoire, c'est l'ouverture du Théâtre Le Gendre, un théâtre historique de la ville d'Évreux, petit bijou, qui a été magnifiquement restauré. Donc il faut dire qu'il y a un travail remarquable qui a été fait, et qui vient apporter une plus-value encore à cette belle place donc de la mairie, qui doit s'appeler la place de la mairie.
La place de Gaulle, sur la place de
la
Gaulle.
Place Charles de Gaulle.
C'est le temps de vous repérer dans les nouvelles rues.
Pardonnez-moi, j'ai pas encore complètement tout le plan d'Évreux, ça ne saurait tarder, mais pour l'instant je l'ai pas encore complètement intégré. Mais donc, si vous voulez, vous avez cette belle mairie, cette place magnifique, la médiathèque, je trouve tout à fait fantastique, avec la Maison des Arts à côté, et le nouveau théâtre Le Gendre, donc qui vient de rouvrir et qui vous accueille d'ores et déjà certains jours de la semaine, si vous voulez venir acheter vos billets, vous renseigner sur la programmation. formation, mes collègues de l'accueil sont là pour vous renseigner et je vous invite vraiment à venir y jeter un œil. Alors, le théâtre sera ouvert, je le dis, parce que je sais qu'il y a une très très forte attente des hébroïciens et des gens qui sont très amoureux de théâtre. Venez le voir, nous ouvrons pendant les journées du patrimoine et nous serons là également pour vous renseigner. Et nous présenterons la saison, donc avec les collègues. C'est plutôt mes collègues qui vont la présenter, parce que cette saison, je ne l'ai pas bâtie et donc je ne la connais pas comme ils la connaissent, mais nous la présenterons le vendredi 13 septembre. Et donc les réservations sont ouvertes, appelez au Tangram, on vous réservera des places. Donc il y a déjà cet événement important qui est la réouverture du Théâtre Le Gendre. Et une fois encore, c'est un pur bijou de bâtiment historique avec une jolie salle avec ses dorures. C'est vraiment un lieu très très beau, patrimonial à visiter, à découvrir et qui va évidemment devenir le cœur de projet de la scène nationale du Tangram. Si je vous dévoile d'ores et déjà peut-être les orientations, je souhaiterais, si vous voulez transformer un festival qui est un festival qui existe depuis quelques années, qui est à l'adresse des jeunes et qui me semble important, qui s'appelle le Festival des Dalles, dont vous allez peut-être parler aujourd'hui, je ne sais pas, ou pas, mais vous devez en parler régulièrement. J'ai beaucoup réfléchi à cette adresse particulière qu'avait mon prédécesseur à la jeunesse hébroïcienne et euroise en général. Je trouve que c'est d'une grande pertinence. Il faut savoir que un quart de la population normande a moins de 25 ans, donc c'est une population extrêmement jeune, et il me semblait important de continuer à s'adresser à ces jeunes. Et je me suis beaucoup interrogée sur aujourd'hui les motifs de mobilisation de cette jeunesse. Et je pense qu'on a tous évidemment été très sensibles à cette mobilisation mondiale aujourd'hui de la jeunesse pour les questions environnementales et de changement climatique, initiée par Greta Thunberg, qui fait grève d'école tous les vendredis en Suède pour essayer d'inciter son gouvernement à prendre des mesures un petit peu plus drastiques en faveur de la préservation de l'environnement et pour lutter contre le changement climatique. Et il y a eu un mouvement qui ensuite a fait tache d'huile auprès de la jeunesse mondiale, puisque ça a eu vraiment des échos un peu partout. Et je souhaite, donc, si vous voulez, donner un objet un petit peu plus particulier à ce festival qui va se transformer donc à l'horizon de la saison 2021, donc qui se déroulera probablement au printemps 2021 et qui sera donc dédié à ces questions qui concerne la jeunesse au premier chef, mais pas seulement. On n'est pas dans l'exclusivité. Moi, je veux absolument qu'on soit dans l'ouverture et dans l'idée de développer le vivre et le penser ensemble et le partager. Et donc, nous allons transformer ce festival, qui deviendra le moment de l'année où nous consacrerons l'ensemble des nous ferons en sorte que l'ensemble des propositions artistiques, théâtrales, musicales, chorégraphiques convergent autour de ces sujets qui sont des sujets donc de changements majeurs, climatiques, environnementaux, mais pas seulement, parce que les changements, ils interviennent également au niveau de l'humain. Et c'est aussi extrêmement intéressant de voir comment aujourd'hui les avancées technologiques, les avancées numériques finalement produisent des changements humains importants. Je crois que nous sommes déjà à l'heure de l'humain augmenté. C'est-à-dire qu'on a déjà un certain nombre de modifications corporelles et qui sont absolument communes. On connaît tous quelqu'un qui porte un pacemaker ou qui a une prothèse de la hanche, ou on voit aujourd'hui des avancées au niveau des prothèses qui sont absolument formidables. Mais il y a aussi des gens qui se font implanter des puces pour démarrer la voiture. Alors on a des gens qui portent des implants cochléaires pour pouvoir entendre quand ils sont privés du sens de l'ouïe. C'est-à-dire qu'on est déjà à l'heure de l'humain augmenté. Demain, d'aucuns appellent l'avènement d'un homme du post-humain, et peut-être même d'un transhumain. Donc, c'est des questions qu'on va aborder. Alors, tout ça dans une perspective qui ne sera pas obligatoirement catastrophiste, parce que je crois qu'il est encore temps de réagir. Je crois que la pire des choses, c'est de se dire que c'est trop tard, parce que ça veut dire qu'on ne fait plus rien. Je crois qu'on peut encore changer les choses. L'humain, le génie humain est capable de produire beaucoup, beaucoup de choses. Et on voit qu'on peut encore imaginer et inventer. Et donc, on va réfléchir ensemble. On va aussi développer le débat d'idées, les rencontres, le film autour de ces questions. Et donc, ce festival aura lieu au mois de... Voilà, je vous disais au printemps. C'est encore à affiner.
Donc voilà un premier grand axe du futur projet du Tangram. Juste, je voudrais revenir un tout petit peu en arrière. Quand on arrive sur, vous arrivez sur Évreux, qui historiquement est quand même très chargé, que ce soit en termes d'histoire du spectacle vivant, mais aussi de toute la scène musicale. Voilà, il y a un nouveau chapitre de cette histoire culturelle et du spectacle vivant à Évreux qui s'ouvre là avec la création du Tangram il y a 3 ans. Comment, quand on arrive comme ça sur une nouvelle direction, sur un nouveau territoire, comment on s'approprie l'historique de ce territoire? Comment on tricote avec aussi? Est-ce qu'on tricote avec ce qui s'est passé aussi avant? Voilà, comment ça se passe?
Bien sûr qu'on s'inscrit dans un territoire, dans une histoire, dans une continuité. Et en même temps, effectivement, j'arrive, mais je suis pas toute seule. J'ai une équipe qui est ici, qui elle est détentrice de cette histoire, qui est un projet. Il se mène pas tout seul, il se mène avec un ensemble de personnes autour qui sont mobilisées. Donc une équipe qui est ici, qui est très investie, des partenaires, des interlocuteurs à différents niveaux. Donc ça, c'est tout un travail effectivement d'aujourd'hui de prendre connaissance de l'ensemble de ces partenaires, de ces interlocuteurs et puis travailler en étroite collaboration avec l'équipe. Un projet se mène jamais seul, c'est une fois encore, c'est une histoire humaine.
Alors, on a découvert qui était cette nouvelle directrice du Tangram. Moi, j'aimerais bien explorer un petit peu, mais qui est cette spectatrice que nous avons avec nous également? Parce que j'imagine que quand on dirige une structure culturelle, on est aussi spectatrice. Et voilà, de manière, alors sans aller jusqu'au portrait chinois qu'on n'apprécie pas beaucoup chez nous, mais en tout cas, est-ce qu'il y a eu une rencontre au bout d'un moment avec une forme artistique marquante qui aurait des déclencher quelque chose chez vous, je ne sais pas, une rencontre avec un spectacle, un livre, un film, que sais-je encore. Est-ce qu'il y a des souvenirs comme ça chez vous de marquages un peu forts ou finalement c'est dans la globalité?
Il y en a une foultitude. C'est-à-dire que, et c'est la grande joie de mon métier, c'est que plusieurs fois dans la saison, j'ai un choc esthétique, j'ai un moment où je découvre un artiste qui explore une voie nouvelle, qui trouve une façon de dire ou de faire, qui juste produit un moment de beauté inouïe, qui est capable de me faire pleurer. Je pleure beaucoup au théâtre parce que je suis très sensible à ça, c'est-à-dire à cette capacité à produire quelque chose. On a le sentiment de très beau, de très fort, de très intelligent, ou qui va peut-être toucher à une histoire qui m'est plus personnel, hein, parce qu'évidemment c'est ça la force du spectacle, c'est-à-dire que vous allez assister à une pièce qui va chez certains évoquer des moments très intimes et qui va aller toucher au plus profond, et moi ça fonctionne, ça continue de fonctionner, donc je peux pas vous donner une liste où je peux vous dire que je suis très éclectique, c'est-à-dire que je continue, je pense que les goûts évoluent tous, toujours, mais je continue d'être très sensible à... Je peux voir une très très grande pièce, par exemple de danse classique, et être absolument submergée par l'émotion en voyant la virtuosité de certains interprètes, de certains danseurs, alors qu'a priori je vais plutôt programmer de la danse contemporaine. Je veux dire, c'est dans la mission de la scène nationale, mais il y aura également aussi évidemment du classique. Donc c'est-à-dire que moi je suis très éclectique, je suis touchée par le talent, évidemment, la force, la qualité des interprètes. La force du propos, je pense que c'est quand même toujours important que toutes ces propositions nous amènent à ouvrir le regard, ouvrir la focale du regard. C'est-à-dire que, une fois encore, je pense que le spectacle vivant participe vraiment à à améliorer notre rapport au monde, à l'autre, et donc à soi. Et donc, c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans la programmation. Donc, peut-être pour vous dire, je souhaite aussi que cette programmation soit beaucoup plus internationale. C'est-à-dire que évidemment, on va s'intéresser à la formation, à la création locale, mais pas seulement. Et je voudrais travailler du plus proche au plus lointain, si vous voulez. Voilà.
Justement, nous l'évoquions tout à l'heure sur le lien avec le territoire et tout ce qu'il constitue, aussi bien la partie publique que aussi le vivier artistique existant. Il y a des choses dans les idées, dans les projections, dans les cartons peut-être, ou peut-être pas encore, vis-à-vis de ce qui se passe en local, en termes de compagnie, en termes de création, voilà, dans ce qui se passe au local.
Alors il va y avoir une attention particulière effectivement à la création locale, ça c'est sûr, c'est un petit peu tôt pour vous en parler, je vous en reparlerai un petit peu plus tard dans la saison si vous voulez, d'abord parce que je viens d'arriver une fois encore, hein, donc il y a 4 jours, c'est très frais, je souhaite aussi moi rencontrer le plus possible les artistes du territoire et que les choses vont se mettre en place, mais je sais que c'est un territoire qui est riche d'artistes, hein, de compagnies, qu'il y a déjà des artistes très très repérés, d'autres qui le sont à découvrir probablement, donc je vais m'y atteler. Que non, c'est un petit peu tôt là dans le processus, si vous permettez.
Mais tout à fait. Voilà, de manière très directe, moi je m'interroge toujours sur quel est le CD qu'il y a dans la voiture ou dans le salon actuellement chez vous, Valérie Baran. Est-ce qu'il y a un CD là dans la voiture par exemple? Il y a quoi? Vous écoutez quoi dans la voiture par exemple?
Dans
c'est
la
très
voiture,
direct, hein, c'est instantané.
J'écoute de la radio qui cause.
D'accord, de la radio qui cause. Non, mais c'est une écoute aussi.
Voilà, donc j'écoute pas beaucoup de musique en voiture. J'écoute, honnêtement, j'écoute France Inter. Je peux écouter RFI parce que je suis très très sensible, évidemment, à ce qui se passe dans le monde. Je pense qu'il est important d'être dans la. Et puis, bah, bientôt, je vais écouter les presse actifs.
Et puis la chance, c'est qu'on envoie les bulletins d'infos d'RFI, comme ça, vous ne
c'est
perdez
génial.
Rien. Vous avez RFI et Principe Actif sur la même fréquence.
Super. Mais oui, j'écoute la radio dans la voiture et à la maison, alors la radio tous les matins, j'écoute beaucoup, beaucoup. Je suis très, très intéressée par la marche du monde, honnêtement. Donc, vous voyez, là, je suis absolument passionnée par ce qui se passe à Hong Kong. Alors, c'est pas parce que j'y ai vécu, mais quand même aussi.
Il se passe quelque chose, quand même.
Il se passe quelque chose. Je suis très sensible à ces grands mouvements de population. Je trouve qu'il y a un courage de ces gens absolument remarquable. Donc, qui me touche profondément. J'ai suivi avec beaucoup, beaucoup d'attention, évidemment, tout ce qui s'est fait aussi dans le monde arabe, lors des printemps arabes et qui continue aujourd'hui d'exister. Je suis, branché quand même beaucoup beaucoup sur les infos et la marche du monde. Voilà. Alors la musique, moi j'adore le jazz. J'aime beaucoup. Je vous disais, je suis très touchée par la virtuosité. Je trouve qu'il y a de grands virtuoses dans le jazz. Le jazz vocal, ça me bouleverse. J'aime beaucoup beaucoup de choses très différentes. J'écoute, je suis très éclectique, hein, voilà. Donc j'écoute un morceau, j'adore. Après, je vais l'écouter en boucle jusqu'à ce que j'écoute un autre. Je crois qu'on est tous un peu comme ça, non? On a une espèce d'obsession.
Oui.
Non, il y a des gens qui
ça
sont.
Dépend, comme... Ça dépend. Ça dépend.
Moi, je suis un peu obsessionnelle, alors peut-être. Voilà, j'écoute de façon très obsessionnelle un morceau que j'adore, et puis ensuite, je suis passée pour autre chose. Voilà.
Justement, les transitions sont toutes faites,
voilà.
C'est génial. Merci Valérie pour vos transitions, elles sont parfaites. Justement, vous êtes venu avec un deuxième morceau de musique, on évoquait le jazz il y a quelques secondes. Vous êtes venu avec Louis Armstrong, ouais. Quelques mots sur ce deuxième choix musical.
Alors, What a Wonderful World. Alors, je vous parlais de singularité et de performance vocale. Enfin, Louis Armstrong, il a une tessiture juste hallucinante. Enfin, si vous voulez, c'est quand même incroyable. Il est immédiatement reconnaissable. C'est quelqu'un qui a un sens de la musique fou. Et cette chanson me touche profondément. D'abord, je pense qu'elle fait écho aux problématiques aujourd'hui de l'environnement. Et vous voyez, ça fait finalement écho à ce festival qui se tiendra au printemps à partir de 2021, c'est-à-dire que contemplons le monde, regardons comme il est beau, préservons-le, faisons en sorte qu'il le reste, qu'il le demeure. Et je trouve que c'est une chanson très 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 positive et très forte. Et portée par Louis Armstrong, c'est quand même un grand moment de joie.
Voilà. I see trees of green. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Thanks to myself, what a wonderful world. Oh, yeah.
What a wonderful world de Louis Armstrong. Oui, voilà, on a pris le temps du coup justement de contempler un petit peu mieux le monde, ou en tout cas en portant un autre regard justement sur cette terre. On discutait un petit peu hors antenne parce que non seulement la transition était toute trouvée avec notre échange précédent le morceau, mais là on se disait que effectivement c'était ce morceau, c'était aussi la façon de reprendre le temps de regarder notre monde autrement.
Et puis comme nous sommes une émission qui prend son temps et prend le temps de parler et d'échanger et de se poser, je trouve que voilà, c'est une bonne rentrée en matière pour notre émission. Et bien voilà, nous sommes avec Isabelle Florido. Bonjour Isabelle, est-ce que vous me recevez bien et m'entendez bien ?
Absolument, bonjour.
Bonjour, merci de nous accorder de votre temps pour nous parler de votre compagnie, les Compagnons de Pierre Ménard, et de votre spectacle Isengrin que nous allons accueillir à Évreux dans le cadre des escapades organisées par le Tangram. Alors je crois que c'est tambour battant que vous nous présentez ce personnage quand même assez connu de Isengrin, quand même, qui est un conte, un texte qui est quand même assez ancestral. Et voilà, pouvez-vous nous parler tout d'abord de votre compagnie, parce qu'elle a cette particularité de travailler avec aussi la langue des signes, et puis de ce que vous avez envie de faire partager au public, et notamment aussi aux plus jeunes.
Alors, notre compagnie existe depuis 16 ans maintenant, et dès le début, aux lectures qu'on a proposées aux spectateurs, parce qu'on est très attaché à la diffusion du patrimoine littéraire français, on a associé la langue des signes, qui s'est avérée être un vecteur très ludique, pédagogique, très original, et il y a quelque chose qui se produit de magique à chaque fois sur scène, avec l'association du français et la langue des signes. Alors, la langue des signes, les gens ont l'habitude de la voir peut-être dans un petit médaillon en bas de la télé, voilà, une langue des signes très neutre, pas forcément expressive. Nous, on la rend très théâtrale. En fait, les gens, dans la plupart de nos spectacles, ont l'impression de voir un dessin animé doublé, un Tex Avery doublé, puisque nous prenons de la langue des signes tout ce qui est iconique, c'est-à-dire le plus imagé, et après un travail très élaboré de traduction, parce que les syntaxes des deux langues ne sont pas les mêmes, on arrive à avoir un résultat où les spectateurs ont l'impression que les voix sortent des corps signants. Alors pour ça, il faut que j'explique un peu
le procédé de
le procédé, voilà. Alors pour la alors le procédé n'est pas tout à fait le même à chaque fois, il peut y avoir une signeuse, deux signeuses, un musicien, pas de musicien. En tout cas là sur Isengrin, on a deux signeuses, un musicien et un lecteur. Les signeuses sont au centre du plateau et vont raconter toute l'histoire en langue des signes en incarnant tous les personnages. Là, il s'agit d'Isengrin, le pauvre loup qui se fait maltraiter par Goupil, son compère, donc que tout le monde connaît s'il a lu le roman de Renard. Et donc, les deux signeuses interprètent tous les personnages, racontent l'histoire en langue des signes, et dans une langue des signes rythmée, de façon à ce que le lecteur qui fait les voix sur le côté, comme s'il doublait un dessin animé, se cale complètement sur l'énergie qui sort des corps. Et donc, il y a quelque chose d'assez magique qui se produit à ce moment-là.
Tout à fait, pour avoir vu vos spectacles, vos différents spectacles, on est en fait sur une forme et qui peut être très simple au début, parce que vous le jouez sur les parvis, sur les salles, ça peut être tout à fait en extérieur, sur les salles des, ou les places des villages, ou dans les cours d'école. Et en fait, c'est le corps, le texte, la dynamique, c'est extrêmement dynamique et vivant dans l'image même que vous portez sur scène et sur le propos. En fait, c'est vrai que c'est, pour moi, ça a été une découverte de la langue des signes est une langue extrêmement vivante, extrêmement prolifique. Ça parle, ça, c'est du geste et du mouvement et une envie de relation énorme, en fait, avec celui ou à qui on joue, mais avec aussi le spectateur. Voilà, moi, c'était un peu mon sentiment. C'était extrêmement en volume, en 3D, et extrêmement prenant autour. Je ne sais pas si c'est aussi un ressenti que vous avez quand vous jouez.
Absolument. On est en relation permanente, chacun de nous quatre, les uns avec les autres, et aussi avec le public. Vous parliez de la 3D, évidemment. La langue des signes, c'est une langue, c'est une langue qui est... s'exprime dans l'espace, donc en volume, on l'accentue, on l'agrandit, et puis je dirais même 4D, puisqu'il y a la dimension musicale et
oui,
vocale.
C'est vrai,
puisque, nous avons le lecteur qui a une panoplie de voix assez incroyable, et le violoncelliste qui propose une partition musicale qui va à la fois créer des ambiances musicales pour accompagner les différentes scènes ou bruiter des effets, donner une dynamique à nos signes. Et tout ça est parfaitement synchronisé. En fait, c'est comme si on interprétait tous les quatre une partition et il faut à chaque instant qu'on soit à l'écoute les uns des autres.
Mmh. Tout à fait.
Et ce que je trouve à chaque fois réjouissant et étonnant, c'est que ce spectacle qui s'adresse à tout le monde, sourds, entendants, enfants, adultes, à partir de 7 ans, eh bien, il a quelque chose d'assez universel et tout le monde comprend l'histoire et même s'en réjouit, alors qu'au départ, on a un texte Isengrin, donc qui n'est pas le roman de Renard du XVIe siècle, mais une réécriture au XXe siècle par Sanivel. Mais tout de même, dans une langue avec beaucoup de mots compliqués, des mots de vieux mots qui pourraient faire penser au vieux français. Donc c'est une langue qui est difficile. À côté de ça, on a une langue des signes qui est inconnue de la plupart des gens. Voilà. Et mais l'association des deux, précédée évidemment du travail qu'on a fourni, donne un récit complètement limpide.
Et une vraie mise en espace, un vrai travail scénique également dans le rapport et dans la construction. Et voilà. Et donc, vous venez sur le territoire hébroïcien très très prochainement, puisque nous vous accueillons les 20 et 21 septembre à Saint-André-de-l'Eure, puis à Saint-Sébastien-de-Morsan, pour que les habitants de nos territoires puissent aussi découvrir votre travail. Merci beaucoup, Isabelle. On vous dit à très vite.
Merci beaucoup à vous et puis j'aurai plaisir à revenir voir les habitants des alentours d'Évreux puisque nous étions déjà venus au mois de juin avec Goupil et les contes du bout des doigts.
Exactement, sur le territoire de Louviers lors des petites scènes, exactement. Et bien voilà, on vous souhaite, et puis avec le dernier spectacle que nous n'avions pas vu, Isengrin. Donc là, on a aussi la série, la trilogie que notre public peut découvrir et apprécier.
Merci.
Merci beaucoup, Isabelle. Et puis, bonne route à vous.
Merci. Bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Nous poursuivons sans transition parce que nous avons pris un petit peu de retard. Ça, c'est une de nos habitudes.
J'allais dire, on ne perd pas les bonnes habitudes.
Mais nous terminerons tout de même à l'heure. Nous nous retrouvons tout de suite pour l'agenda. Et nous le disions complètement
subjectif.
Et qu'est-ce que nous avons dans la besace, Cécile, peut-être?
On a pas mal de choses. Hein. Déjà, si on récapitule un petit peu ce qu'on s'est dit, les escapades qui débutent le vendredi 20 septembre et se poursuivent le samedi 21 septembre sur 4 communes de l'Eure, Guichainville, Saint-André-de-l'Eure, Saint-Sébastien, Morsoan et Sylvain-les-Moulins. Toujours sur le même week-end, il se passe des choses. Hein. 21-22, c'est le week-end. Les journées du patrimoine dont on parlait tout à l'heure, avec la possible visite du théâtre Le Gendre, mais aussi de la médiathèque et d'autres lieux dans Évreux. J'ai pas eu le temps de tous les répertorier. Mais
Et plus largement, au national, ce sont les journées européennes du patrimoine.
Fait.
Donc nous pouvons visiter à travers toute l'Europe.
Exactement. La médiathèque, je crois qu'il y a une exposition justement sur chez Metoff et sur la construction de la médiathèque.
L'architecte de la médiathèque.
Ouais. Tout à fait. Le 22, toujours, vous retrouvez Brocazic, le rendez-vous des chineurs de musique et plus, hein, bien sûr, au Tangram, au Cube, à Évreux, toute la journée, 10h, 18h. On va remonter un petit peu dans le temps, la présentation de la saison, rencontre avec Valérie Baran et toute l'équipe du Tangram, bien sûr, le vendredi 13 septembre, à partir de 19h, enfin à 19h. On ne dit pas, là pour le coup, on lancera la soirée à 19h.
Au théâtre Le Gendre.
Tout à fait. Ce soir, le vernissage de l'exposition des travaux d'élèves de la Maison des Arts. Donc le vernissage c'est ce soir à 18h, mais l'expo elle court jusque fin septembre. Voilà. Et ce week-end, on se retrouve bien entendu sur les traditionnels forums des associations. Et on parlait du sud de l'Eure en début d'émission. Et bien maintenant, le sud de l'Eure a son forum des associations également à Thomers-la-Saugne. Voilà.
Ouais, ça rigole plus. Hein. Moi, je voulais revenir sur quelques autres dates. Le 14 septembre de 9h à 17h, Placette Oursel, sur les berges de Liton, en fait. Mm-hmm. C'est les tisseurs de liens qui organisent une gratiféria. Une gratiféria, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est en fait comme une espèce de foire à tout, mais gratuite. Ça veut dire qu'on vient et on repart avec des objets, des vêtements, des livres, des disques, peu importe. Il n'y a pas d'échange monétaire, et on n'est pas obligé d'échanger même. voilà, on prend, on donne, on pose. C'est la gratiféria du collectif Les Tisseurs de Liens. Je me permettais d'insister parce que Les Tisseurs de Liens, c'est un collectif famille qui globalement intègre énormément de structures, je sais plus le nom, mais peu importe, de structures autour du médico-social et du social. Mmh. Et c'est l'occasion d'aller à leur rencontre ou même de venir chiner.
Se balader.
Voilà, et ça ne vous coûtera pas grand-chose. Vous venez avec des choses ou pas, vous les déposez ou pas et vous prenez ce que vous voulez ou pas. Voilà,
voilà. Donc bon moment de balade. Et puis, dernier, bon, oui, vas-y.
Non, je n'ai pas dernier, j'en ai d'autres.
Oh là là.
J'ai le 14 et le 15 septembre le festival Rock in the Barn qui se passe du côté de Giverny. Ben, on est obligé d'en parler du Rock in the Barn.
Oui,
je vois que vous me faites les gros yeux parce qu'on a dépassé.
Oui, parce que David, c'est toi qui nous fais les gros yeux, mais t'as raison.
Mais Rock in the Barn.
Il faut parler du Rock in the Barn, on est d'accord.
Du côté de Giverny, le 14 et 15 septembre, un festival à surtout ne pas manquer. J'imagine que Valérie sera sensible à cet événement. Il y a la 15 jours autour de la fête des possibles organisée par le collectif Alternativa, voilà, sur les questions environnementales en particulier, mais plus globalement, d'une vision, partager une vision un peu différente des possibles. Donc c'est la fête des possibles du 15 au 30 septembre avec une programmation dont vous irez voir les détails sur internet parce que là on n'a pas le temps d'en parler, elles me font déjà les gros yeux. Et puis comme ce sera notre prochaine émission, c'est le 4 octobre, je vais quand même en parler parce que le 4 et 5 octobre à la Gare aux Musiques, ce sont les pop-up parties, les sorties de résidence des groupes qui ont été accompagnés sur la saison 2018-2019. ça vaut le coup d'aller voir les groupes après un an de résidence à la Gare aux Musiques. Il y a 6 groupes, hein, je crois, cette année, de mémoire, qui sortent de résidence. C'est pour ça que c'est 2 jours.
Et moi, j'en parle aussi. L'ouverture de la saison du Tangram à Louviers, le 1er octobre, ce sera la compagnie Kefig, que vous connaissez sans doute, qu'on a déjà accueilli, Mourad Merzouki, avec justement un carte blanche où on revient sur l'histoire de la compagnie à Louviers, au Théâtre du Grand Forum, le 1er octobre à 20h.
Est-ce que je peux vous faire les gros yeux maintenant que vous êtes en retard, les filles?
Ouais, merci, j'y sais. Et pour clore vraiment avec notre traditionnel extrait de film cinématographique et qui fait aussi lien avec un événement, puisque le 28 septembre à 14h au Cinépathé, vous avez la première journée cinéma du Tangram. Et là, c'est un regard sur la femme. C'est John Cassavetes avec Jenna Rollins, et on a voulu vous donner un extrait de Love Streams, qui était son dernier long métrage à Cassavetes, avec évidemment son actrice fétiche Jenna Rollins. Voilà, petit clin d'œil.
J'arrive même pas à le démarrer, dis donc.
Ah, c'est qui donc? Bon. Bonne sortie, et on se retrouve le 4 octobre.
Continuous. Doesn't stop. This is your son. You haven't even seen your son since he was born.
Where are you?
Paris.
Where have you gone?
This is my son, Albie, from the second marriage. I'm Robert Farm.
Really? Come on.
Dad, I love you.
Come on.
Your love is too strong for your family.
I'm almost not crazy now.
I just don't care.
Here we go.
You know, I'm going to do something for you. I'm going to buy you a baby.
You're talking about a guy who held my hand in a hospital, who cried when his baby was born. Where were you?
I don't want you to go. I love you. You're the only one I love.
Oh, time to say goodnight. I'll warm your hand.
Love is everything.